Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La sortie du dernier film de François Ozon est menacée par la justice. Elle doit se prononcer aujourd'hui sur ce long métrage consacré à la pédophilie dans l'Église catholique. Les avocats du père Prénat à Lyon ont notamment déposé ce recours. La présomption d'innocence de ce prêtre pose donc question ce lundi alors que se profile une réunion inédite au Vatican sur les abus sexuels justement. Et il n'est pas sûr que des solutions concrètes soient apportées, vous le comprendrez.
Dans cette édition, nous ferons aussi le point sur l'aide humanitaire dont a besoin 80% de la population au Yémen. Hier soir, un accord a été trouvé pour retirer les forces présentes dans le port d'Hodeïda.
Nous irons aussi dans un camp de réfugiés près de Ramallah en Palestine. Des familles de détenus palestiniens sont en colère après le gel annoncé par Israël d'une aide de 138 millions de dollars.
Et puis, reportage à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, dans le cadre du grand débat national, des collégiens ont discuté sur la citoyenneté, l'environnement, une migration, parole à suivre.
Après ce journal, Frédéric Saïs nous rejoindra pour son billet politique. Il est consacré ce lundi aux intrus en politique. Quand la présomption d'innocence se heurte à la censure, le film de François Ozon, Grâce à Dieu, sortira-t-il en salle ce mercredi? Relatant des abus sexuels sur mineurs dans l'Église catholique, le réalisateur s'est directement inspiré pour ce film du combat mené par les victimes lyonnaises face au prêtre Bernard Prénat. Lui est mis en examen et il attaque le réalisateur, idem pour une ancienne membre du diocèse de Lyon. Les décisions de justice seront prononcées aujourd'hui. Si le long métrage devait attendre le procès du père Prénat, alors sa sortie serait retardée de plusieurs mois, voire plusieurs années. Une catastrophe économique, disent les avocats du producteur et du distributeur de ce film, prix du jury, notons-le, à la Bernilane ce week-end. Ils sont soutenus, le producteur et le distributeur, par une partie des victimes d'abus sexuels, comme Alexandre Aizé.
C'est un film citoyen et ça serait très dommageable pour, en tout cas, ce combat contre le fléau de la pédophilie. Nous, dans ce combat juridique, on est un peu en dehors. Notre combat, c'est un combat pour rompre l'omerta et le silence qui est sur ce fléau qui est la pédophilie. Le film de François Ozon, c'est un film, à mon avis, qui va avoir un impact sur la société important. Si des personnes considèrent pour leur propre personne que ce film doit être reporté ou interdit de projection, c'est triste.
Triste, mais cela pourrait aussi faire réagir un peu plus qu'aujourd'hui. Voilà ce qu'estime de son côté François Deveau. Il préside l'association La Parole Libérée.
Je serais désolé pour François Ozon si son film se voyait retardé, mais moi, ce qui m'importe, c'est la cause. Et si toutefois, il faisait retarder la sortie du film, ça poserait encore beaucoup de questions. Et je crois que ça servirait aussi la cause et ça servirait aussi la conscientisation. Je crois que ce serait catastrophique d'un point de vue financier pour le film. Mais en même temps, ce ne serait pas perdu, je crois.
Des propos recueillis par Christophe Vincent à Lyon. Si le film de François Ozon venait à être reporté, ce serait inédit depuis Les Noces Rouges de Claude Chabrol, décalé de 2 semaines en 73, le temps d'attendre la fin du procès des amants diaboliques de la Creuse. En cas de non-report, en revanche, la décision pourrait faire jurisprudence, donnant ainsi au créateur la possibilité de s'inspirer d'une affaire avant que la justice se soit prononcée. Les soupçons et les aveux de pédophilie suscite encore beaucoup de débats dans l'Église catholique et secoue l'Église catholique. Il en sera justement question à partir de jeudi au Vatican, puisque des centaines d'évêques seront réunis à l'appel du pape François. Le pape qui montre ainsi publiquement, en tout cas, qu'il prend le sujet à cœur, Sophie Alavi.
François veut mettre les évêques devant leurs responsabilités. Le pape leur a demandé de rencontrer des victimes d'abus sexuels avant de se rendre au Vatican jeudi prochain pour un sommet consacré à la question. Mais pas certain que les réponses apportées par l'Église catholique soient à la hauteur des attentes, d'après Gino Hoel, rédacteur à Golias, une revue chrétienne réformiste.
Au départ, il y avait des promesses, mais aujourd'hui, de plus on approche ce sommet, et plus, du côté de Rome, on nous explique qu'il ne faut pas non plus trop espérer de décisions concrètes.
Un sommet qui intervient après une série de scandales retentissants de pédophilie au Chili, en Allemagne et aux États-Unis. Samedi dernier, le pape a même défroqué l'ex-cardinal américain Theodore McCarrick, accusé d'abus sexuels, une première historique.
Il y a crise des abus parce qu'il y a une non-réaction de l'Église ou parce qu'elle ne sait pas comment réagir. Les abus, en fait, ont été très longtemps vus comme des inventions d'ennemis de l'Église. Il existe quand même des gens qui vous expliquent que les enfants en font beaucoup trop, et notamment chez les clercs. Aujourd'hui, vous avez très peu de moyens de faire prendre ses responsabilités à un évêque ou à un prêtre qui a fauté. Donc il y a des points de droit canoniques à changer. Il faut aussi changer nos mentalités et ne pas rejeter en bloc les suspicions qu'il peut y avoir parfois par rapport à certains prêtres ou évêques. Les victimes, généralement, elles ne s'amusent pas à dénoncer un prêtre ou un évêque.
Le chef de l'Église promet à l'avenir des protocoles pour faire face à des situations face auxquelles, d'après lui, les évêques ne savent parfois pas réagir.
La réunion sur les abus sexuels au sein de l'Église se déroulera donc au Vatican de jeudi à dimanche. Il aura fallu très exactement 2 mois pour que l'accord de Suède soit entendu par les forces en présence et qu'une entente soit trouvée. Au Yémen, le gouvernement et les représentants de la rébellion Houthi sont d'accord pour enclencher la phase 1 du texte, c'est-à-dire pour retirer leurs forces du port d'Odeida. C'est par là que transite la majorité de l'aide humanitaire apportée au Yémen et les Nations Unies n'arrivent pas jusqu'à aujourd'hui à l'acheminer d'Adine Epstein.
Les 2/3 de toutes les régions sont déjà en situation de pré-famine, alerte l'ONU qui précise qu'en un an, le nombre de personnes en danger a augmenté de 27% et 14,3 millions de citoyens ont besoin de secours d'urgence. Le PAM, Programme Alimentaire Mondial, dispose de denrées qui pourraient nourrir plus de 3,5 millions d'affamés pendant 1 mois. Mais voilà, ces céréales sont bloquées depuis 5 mois à Hodeïda et maintenant, elles risquent tout simplement de n'être plus comestibles. Un danger de pourrissement s'accroît de jour en jour, prévient le médiateur de l'ONU au Yémen, Martin Griffith. Les Houthis règnent sur la capitale Sana'a et Hodeïda, le grand port à l'ouest du pays sur la mer Rouge, où transite 70% de l'aide humanitaire. Les forces loyalistes et de la coalition saoudienne et émiratie ne parviennent pas à en prendre le contrôle et le conflit s'enlise au grand dam des civils, les premières victimes de cette guerre dans le pays le plus pauvre de la péninsule arabique, qui est aussi une plaque tournante de vente d'armes. Il y a 2 mois, un rapport du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, parlait de la découverte d'armes de fabrication iranienne. À Washington, la Chambre des représentants a voté un texte demandant à Donald Trump de cesser son soutien à la coalition conduite par Riyad. La résolution est maintenant sur le bureau des sénateurs américains.
Et aujourd'hui, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui va se pencher sur la situation au Yémen. De l'aide humanitaire, de nombreux Vénézuéliens en ont aussi besoin, des médicaments notamment. Le régime de Nicolas Maduro la refuse. Il refuse qu'elle entre dans le pays. Notons par ailleurs que le gouvernement a refusé aussi hier de laisser entrer sur son territoire un groupe de députés du Parlement européen. Il devait rencontrer l'opposant Juan Guaido. Israël va bloquer 138 millions de dollars destinés à l'autorité palestinienne. Cela correspond à l'aide versée aux familles de prisonniers ou d'anciens prisonniers palestiniens. Une loi qui permet de geler cette enveloppe a été votée en juillet dernier. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a décidé de l'appliquer en ce début d'année suite au meurtre d'une jeune Israélienne par un Palestinien. C'était il y a 10 jours. Bloquer ces allocations est une façon pour l'État hébreu de lutter contre ceux qu'il appelle terroristes. Une aide importante qui s'évapore, répondent les familles, comme l'a constaté Marine Vlaovic dans le camp de réfugiés d'Alamari près de Ramallah.
Planté sur le seuil de sa maison délabrée, Raled Abou Rouis montre des photos de ses 2 fils arrêtés par l'armée israélienne au cours d'affrontements. Pour chacun d'entre eux, cet ouvrier reçoit un peu moins de 350 euros par mois.
Bien sûr que j'ai besoin de cet argent. J'en envoie une partie à mes enfants en prison. Et le reste me permet de vivre. Depuis qu'ils ont été arrêtés, je n'ai plus de permis pour travailler en Israël. Comment je ferais sans cet argent ?
Héros de la lutte contre l'occupation pour les Palestiniens, terroristes pour les Israéliens, les portraits de prisonniers ornent les ruelles d'Alamari. Cette aide versée à leur famille est surtout très symbolique pour Armat Tamale, membre du comité qui gère ce camp de réfugiés.
Ceux qui vont en prison, ils sacrifient leur futur, tout pour la Palestine. Et nous, qu'est-ce qu'on leur donne en retour ? Ces allocations sont un minimum. Nous ne voulons pas arrêter de leur verser cet argent, car ce serait manquer de respect à ceux qui donnent leur vie pour nous.
Dans les territoires occupés, près de 11 000 familles de détenus et d'ex-détenus touchent ces allocations, selon Kadoura Fares, le président du club des prisonniers palestiniens.
C'est avant tout notre argent, c'est de l'argent palestinien et ce n'est pas un cadeau que nous faisons aux familles. Nous soutenons ainsi des gens qui n'ont pas d'autres sources de revenus et notre peuple a le droit de se battre pour sa liberté selon le droit international.
L'autorité palestinienne, qui dénonce un acte de piratage de la part d'Israël, s'est engagée à poursuivre le versement de ces allocations controversées.
8h10, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal sur France Culture. Le parquet de Paris a ouvert une enquête après des insultes dont a été victime notre camarade Alain Finkielkraut samedi.
Oui, c'était en marge d'une manifestation des Gilets jaunes à Paris. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, annonce qu'un suspect reconnu comme le principal auteur de ces injures a été identifié par la police. Au-delà de l'enquête, des voix s'élèvent aussi pour plus de sévérité contre l'antisémitisme. Mario Stasi, notamment le président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme.
Je demande qu'au-delà de l'indignation, la colère et l'émotion, on prenne enfin la mesure de la gravité de la situation. C'est-à-dire, quels moyens financiers, quelles urgences. Il faut passer de la parole aux actes législatifs, aux actes en matière d'éducation. Je vois d'ailleurs Jean-Michel Blanquer, je crois, très vite cette semaine. Œuvrons à faire en sorte que de tels propos soient sanctionnés rapidement et que l'on coupe le déversoir de haine que peuvent être les réseaux sociaux et que l'on éduque nos jeunes, nos plus jeunes, pour les générations à venir, aux valeurs de la République, à la laïcité, à la diversité, à l'altérité, aux génocides, qu'ils sachent que l'on combatte l'inculture, car c'est sur l'inculture que se développe le prosélytisme identitaire antisémite. Il faut combattre l'inculture et l'ignorance.
Et notons aussi que des députés de tous bords veulent que l'antisionisme soit reconnu comme un délit au même titre que l'antisémitisme. Ils proposeront demain une résolution ou une proposition de loi en ce sens. Ces propos antisémitistes à l'encontre d'Alain Finkielkraut, je vous le disais, ont été prononcés lors d'un rassemblement de gilets jaunes à samedi dernier à Paris, des propos antisémites. Hier, une autre mobilisation pacifique a eu lieu à Paris. C'était 3 mois jour pour jour après le début des manifestations. Entre 1000 et 2000 personnes ont défilé. Et pendant ce temps, le grand débat national voulu par le gouvernement continue. France Culture a décidé d'assister à ces séances de discussion toute cette semaine un peu partout en France. 4000 réunions sont déjà organisées. Ce matin, nous allons à Sèvres, en banlieue parisienne. Les membres du Conseil communal des jeunes se sont retrouvés ce week-end. Ils sont tous collégiens. Ils se sont donc retrouvés autour du maire d'hiver droite de la commune, compte rendu du débat signé Steven Goyer.
S'il n'y avait pas sur la table de l'entrée quelques bonbons, sodas et autres gâteaux en forme d'ourson, on pourrait croire au début d'une séance classique du conseil municipal de Sèvres. Mais les participants, cette fois, ont tous entre 11 et 16 ans, 21 adolescents qui comptent bien apporter leur voix, leur contribution à ce grand débat national.
Et vos idées personnelles, individuelles.
Après quelques explications du maire Grégoire de la Roncière, on forme 3 ateliers, 2 pour évoquer la démocratie et la citoyenneté, un autre autour de la transition écologique. Sur les tables, stylos, feuilles et petits livrets contenant des pistes de réflexion autour des thèmes abordés, chacun explique ses priorités.
On utilise beaucoup de nucléaire et ça fait vraiment des déchets mauvais pour la Terre.
Moi je trouve aussi que la pollution de l'air, il y a vraiment des gens qui abusent au niveau des voitures pour aller... Par exemple, à 100 mètres, alors qu'il pourrait y aller à pied.
Objectif, faire émerger 6 idées ou 6 questionnements par atelier sur celui réservé à la transition écologique. On parle survie des abeilles, tri sélectif, énergie renouvelable, le tout orchestré par 2 encadrantes.
Toi, tu dis, passer du nucléaire à énergie renouvelable. Qui vote pour lequel ?
Pour chaque atelier, un porte-parole est nommé afin de présenter les réflexions retenues à la salle et au premier édile de la commune.
Le vote obligatoire et reconnaître le vote blanc.
Enfin, au sein du groupe, on n'était pas tous d'accord.
Des pistes nationales, mais aussi locales, comme pour Elena, 13 ans, qui compte bien interpeller le maire.
Dans la gare rive gauche à Sèvres, y a des lumières qui restent allumées toute la journée. Enfin, quand je rentre chez moi à 16h30, je vois les lumières allumées alors que ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça que je vais en parler un peu.
Aussitôt dit, aussitôt fait.
Non mais c'est noté, alors, c'est pas nous, ça c'est la SNCF, mais je vais leur dire.
Une réflexion supplémentaire pour Grégoire de la Roncière qui se félicite des débats du jour.
Ils me disaient qu'ils sont un peu jeunes. Et bien finalement il y a des trucs très bien qui sortent dès l'âge collège. Par exemple le thème de l'immigration, j'ai eu l'impression quelque chose comme des quotas dans les villes. Finalement, que ce ne soit pas toujours les mêmes villes qui y accueillent. Donc ça, c'est pas mal.
Les contributions seront ajoutées à toutes celles émises par les Sévriens avant une remontée au niveau national le mois prochain.
La synthèse globale doit être rendue au mois d'avril. Certains estiment que la culture n'apparaît pas ou peu dans ce grand débat national. Eh bien, la Fondation du patrimoine et les Beaux-Arts Magazine organisent un grand débat sur la culture à partir d'aujourd'hui jusqu'à la mi-mars. Une plateforme participative est ouverte sur Internet, granddebatculture.fr. Un rapport sera ensuite remis au président Emmanuel Macron ainsi qu'au ministre de la Culture Franck Riester. Une légère perturbation pluvieuse arrive par les côtes bretonnes et la basse Normandie ce lundi. Le ciel va donc se charger progressivement par l'ouest, mais il restera bien ensoleillé partout ailleurs. Il fait ce matin 5 degrés à Besançon, 7 à Paris et Nantes, 8 degrés à Lyon, 9 à Bordeaux, 11 en moyenne près de la Méditerranée.